Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Aujourd'hui, on ne serait pas mieux au bureau. Pas de cantine aujourd'hui, pas de CE, pas de pause cigarette devant le hall d'entrée, pas de pause ragot devant la machine à café, pas de blague du chef, pas de stagiaire à s'adiser. C'est le 1er mai et comme chaque année, c'est un mauvais moment à passer pour qui, comme vous, s'ennuie à mourir dès qu'advient un jour férié. La journée a été d'autant plus longue qu'hier, le CEO de la boîte vous a lancé un défi, pas de mail pro pendant toute une journée. Sacré challenge, mais le jeu en valait la chandelle. Demain, celui ou celle qui aura le mieux résisté pourra troquer son vieil ordinateur contre un tout nouveau laptop avec accès sécurisé à l'intranet. Comme ça, l'an prochain, quand arrivera à nouveau le 1er mai, un mercredi cette fois, vous pourrez continuer à gérer de chez vous comme si de rien n'était. Alors, est-ce qu'on ne serait pas mieux au bureau ? Eh bien, c'est à cette question que nous allons tenter de répondre aujourd'hui. On va s'intéresser notamment au monde si particulier des startups. Et je précise que c'est une émission que nous avons enregistrée au mois d'avril. Et nous l'avons fait en compagnie de trois invités. Mathilde Ramadier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes quoi ? Vous êtes graphiste, dessinatrice ?
Je suis surtout auteur maintenant, mais j'ai commencé par des études d'art et je dessine aussi.
Et parmi les ouvrages que vous avez publiés, il y a notamment Bienvenue dans le nouveau monde de comment j'ai survécu à la coulitude des startups, publié l'an dernier aux éditions Premier Parallèle. Et puis, après-demain, le 3 mai en tout cas, vous n'espérez quand même pas un CDD, c'est une bande dessinée publiée au Seuil dans laquelle vous racontez un certain nombre d'entretiens d'embauche. On aura évidemment l'occasion d'y revenir. Pour discuter avec vous, Nicolas Santolaria, bonsoir.
Bonjour.
Vous êtes journaliste nomade, c'est comme ça que vous vous présentez en quatrième de couverture de votre dernier ouvrage, Le syndrome de la chouquette ou la tyrannie sucrée de la vie de bureau. On aura l'occasion d'expliquer ce que c'est que ce syndrome de la chouquette. C'est un recueil, en tout cas ce livre, de vos chroniques pour le journal Le Monde, chroniques intitulées bureautiques, enfin c'est en tout cas sous cette bannière que vous les publiez. Et puis notre troisième invité, Sandrine Foulon, bonjour.
Bonsoir.
Ah bah ouais, on se dit bonjour, un coup bonsoir.
Comme vous voulez.
Vous êtes journaliste à Alternatives Économiques, rédactrice en chef du site internet. Vous aussi, vous tenez une chronique hebdomadaire, c'est sur France Inter, dans l'émission On n'arrête pas l'écho d'Alexandra Ben Saïd. Chronique intitulée Ma vie au boulot. Alors nous sommes aujourd'hui le 1er mai. Moi j'aimerais d'abord savoir, Mathilde Ramadier, vous qui avez abondamment, semble-t-il, fréquenté les startups, si ce jour-là est chômé également dans les startups, ou bien si c'est une journée de travail comme une autre, même si on n'est peut-être pas au bureau, on travaille quand même.
Alors, j'ai surtout travaillé dans des startups à Berlin, mais à Berlin, le 1er mai existe aussi. Il est chômé. Et en l'occurrence, le 1er mai à Berlin, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est pour vous donner un exemple concret, j'ai une amie photographe qui se trouvait là par hasard une année, qui voulait prendre une photo du ciel. Et au moment où elle appuyait sur le déclencheur de son appareil argentique, quelqu'un a jeté un extincteur depuis le toit de l'immeuble. Donc elle a une photo avec l'extincteur qui est en train de voler dans le ciel. Donc voilà, le 1er mai, c'est quelque chose où ça remue énormément à Berlin. Et pour le coup, c'est respecté même par les startups qui ne connaissent par ailleurs pas d'horaire, hein, puisque les horaires sont soi-disant flexibles. On travaille les week-ends, il n'y a pas de pause pour les mails pro. Mais je dirais que là, le 1er mai, à Berlin, en tout cas, ça reste sacré.
Bon alors, si le 1er mai reste sacré, et en Allemagne, et en France, Sandrine Foulon, peut-être que pour les autres jours fériés ou les temps de repos, c'est un petit peu en train de changer, dans la mesure où on a l'impression que la différence, ou en tout cas la séparation entre ce qu'est le lieu de travail, et donc le moment où on travaille, et puis le domicile, c'est quelque chose qui s'efface progressivement quand même.
Oui, c'est vrai, ça s'efface progressivement. Alors je suis d'accord, le 1er mai, c'est un jour, j'allais dire, sacré, si on peut dire ça comme ça. C'est un des seuls jours qui soit férié, chômé, payé, et symboliquement, ça veut dire beaucoup de choses, y compris pour les gens qui travaillent dans les startups. Après, vous avez une grosse évolution dans les jours fériés, parce que le lundi de Pentecôte, aujourd'hui, bah, c'est le jour de solidarité. On ne sait plus très bien s'il faut venir travailler, s'il faut rester à la maison. Ces jours-là, ces jours fériés, ça reste encore d'actualité. Le vrai problème, c'est effectivement la porosité entre la vie privée et la vie professionnelle. Et quand vous mettez tout bout à bout, quand vous travaillez le week-end, que vous travaillez avec votre laptop sur la plage pendant les vacances, quelque part, bon, vous allez prendre ces jours-là comme vous prenez vos jours de RTT, mais vous vous ne mesurez pas qu'au fond, vous travaillez beaucoup plus.
Le laptop, hein, c'est l'ordinateur portable. Il y a pourtant un droit à la déconnexion aujourd'hui dans la loi.
Oui, bien sûr.
Il a du mal à être appliqué.
Oui, il a du mal. Il est récent. Hein, il a un an. Aujourd'hui, on voit des entreprises qui commencent à mettre en place toute une série de procédures. Alors, vous pouvez effectivement fermer les serveurs à partir de 19h. Vous dites plus personne n'a le droit d'envoyer. Enfin, la direction ne peut plus envoyer un mail, sauf certains cadres qui demandent à pouvoir quand même les recevoir. C'est un droit qu'il faut respecter, effectivement, qu'il faut appliquer, mais qui n'est pas tous les jours appliqué.
Peut-être qu'en matière de congé, Nicolas Santolaria, il y a un autre système qui pourrait être intéressant, qui a priori peut faire rêver, c'est de laisser aux salariés le choix de décider quand est-ce qu'ils partent en vacances et combien de temps ils partent en vacances. Ça, c'est quelque chose qui existe dans certaines start-up.
Oui, oui.
Ça a l'air intéressant. C'est un petit piège quand même.
Bah, c'est vrai que ça a l'air alléchant comme ça. Ça fait penser un petit peu au buffet à volonté dans les restos chinois. Donc on se dit tiens, on va se goinfrer entre guillemets. Mais dans les faits, en fait, on se rend compte qu'il y a une forme de pression sociale latente qui fait que les gens ne prennent pas autant de congés que ça. Et ensuite, tout ça est lié aussi à la définition d'objectifs préalables. Donc il faut avoir rempli l'objectif pour finalement s'octroyer des congés. Et le problème, c'est qu'on devient un petit peu soi-même son propre DRH, ce qui est un petit peu là, je dirais, la pente actuellement dans les entreprises dites cool ou libérées. Voilà, c'est ce qu'on voit se dessiner aujourd'hui.
Donc on s'auto-censure, on prend moins de congés finalement qu'on en aurait peut-être si c'était son directeur du personnel qui les octroyait.
Il y a peut-être ça, et puis il y a l'idée aussi de méritocratie qu'on va s'appliquer à soi-même. Donc on va vouloir être de plus en plus productif pour mériter ces congés, alors qu'avant, d'une certaine manière, ils étaient dus du fait même de travailler dans l'entreprise.
Sandrine Follon.
Oui, puis la contrepartie, c'est qu'en fait, des gens acceptent de répondre à des mails à 3h du matin. C'est ça qui est la contrepartie de prendre des vacances à volonté.
Ce principe du buffet à volonté, il fonctionne aussi dans certaines entreprises, Nicolas Santolaria, c'est ce que j'ai appris en lisant votre livre. En matière de salaire, vous évoquez notamment le cas d'une start-up française, Luca, qui propose à ses employés de fixer eux-mêmes leur salaire. Parlez de darwinisme salarial à ce sujet.
Oui, c'est vrai. Tout va un peu dans cette même logique. C'est vrai qu'on appelle ça l'entreprise libérée aujourd'hui, avec l'idée qu'on est passé finalement d'un mode de gestion des troupes coercitif, avec pointeuse, etc. Aujourd'hui, c'est l'inverse opposé. C'est-à-dire que il y a cette espèce de sentiment de liberté, il y a l'arrivée du canapé, de la table de ping-pong. Mais on voit que c'est finalement une autre forme de contrôle des équipes, qui est plus doux. Moi, j'assimilerais ça un petit peu au nudge. C'est une forme de manipulation douce qui fait qu'on amène les gens à faire ce qu'on veut qu'ils fassent, mais sans contrainte apparente. Donc voilà, c'est un petit peu ça l'entreprise aujourd'hui, telle qu'elle se dessine.
Alors vous, Mathilde Ramadier, dans les expériences que vous relatez, dans Vous n'espériez quand même pas un CDD, je ne crois pas me souvenir qu'il y ait des DRH ou des responsables d'entreprise qui demandent à la personne qui ambitionne d'obtenir un poste le niveau du salaire qu'elle souhaite. Mais en tout cas, il y a une vraie pression à la baisse à chaque fois, c'est-à-dire que c'est toujours trop hein, ce qui est demandé.
Oui, alors les anecdotes que je raconte dans son livre sont en partie vraies, hein, elles sont extrêmement romancées, mais j'ai une base à chaque fois sur laquelle je m'appuie. Je n'ai pour ma part jamais pu vraiment parler du salaire en entretien d'embauche, hein, c'est toujours un tabou. Lorsqu'il m'arrivait de demander timidement, vraiment avec des pincettes, en sueur, lors du deuxième entretien, s'il s'agissait d'un CDD ou d'un contrat en freelance, souvent on me regardait en levant un sourcil et on me disait « mais quelle différence ça fait ? Vous manquez d'ambition si vous posez cette question ?» Et il faut dire que dans les startups, en tout cas à Berlin, avec le code du travail allemand, les contrats dits en freelance, donc d'auto-entrepreneurs, c'est-à-dire pour lesquels il faut payer soi-même toutes ses cotisations sociales, sont abusés. Souvent on fait croire à une embauche et puis c'est le jour de l'entretien où on se rend compte un peu le bec dans l'eau que ben non, il faudra payer sa sécu soi-même.
Il y a une scénette notamment, on voit, c'est toujours la même jeune femme, on imagine que c'est vous en tout cas qui postulez, c'est peut-être pas vous, mais enfin, en tout cas,
double,
c'est toujours le même personnage, un double, qui postule pour un emploi de traductrice. Alors, il va s'avérer que ça va être pour traduire des modes d'emploi, notamment de machines à laver. Et elle le réclame un certain prix qu'on lui refuse. Et on lui dit, bah, estimez-vous heureuse, déjà vous êtes embauchée. Puis en plus, de manière, il y a des mots qui vont être répétés dans les différents modes d'emploi que vous aurez à traduire. Donc, ça sera quelque chose qui se fera de manière totalement automatique. Ça, c'est romancé ou ça, c'est
un mélange d'expériences que j'ai eues. C'est-à-dire que il m'est arrivé de postuler pour des plateformes de traduction. Hein. Ça existe de plus en plus. C'est dramatique pour les traducteurs parce que c'est payé au mot et c'est parfois aujourd'hui payé 2 centimes le mot. Donc pour vous donner un ordre d'idée, si on traduit très vite, ça fait du 4-5 euros de l'heure, pas plus. Et effectivement, là, dans l'anecdote que je raconte, le recruteur dit, bah écoutez, vous allez travailler comme un robot, vous n'avez même pas besoin de réfléchir, donc 5 euros de l'heure pour faire le robot, c'est plutôt bien payé.
Alors ça renvoie presque au début du capitalisme, Sandrine Foulon, c'est-à-dire quand on était rémunéré à la tâche. Aujourd'hui, oui. Avec l'auto-entrepreneuriat, il y a un petit peu de ça. C'est-à-dire le SMIC, finalement, ne veut plus dire grand-chose dans un certain nombre de cas.
Oui, exactement. C'est-à-dire qu'on retourne au travail à la tâche. C'est exactement ce que vous décrivez. L'idée, c'est que beaucoup d'entreprises aujourd'hui veulent ne rémunérer que le travail purement productif. Ils veulent pas rémunérer les à côté, les congés payés, les primes que vous pouvez avoir. Alors ça, c'est le cas effectivement. Et la traduction, c'est un très bon exemple. Malheureusement, c'est un exemple assez dur. Mais toutes les conditions de travail sont pas comme ça. Je voudrais juste peut-être prendre le contre-pied. Aujourd'hui, vous avez aussi, on le voit avec la reprise de la croissance, des entreprises qui recrutent en CDI et qui demandent tout de suite, qui mettent tout de suite l'argent sur la table. Là, depuis 10 ans, on n'avait jamais connu un taux de recrutement en CDI aussi élevé. Donc il y a des poches oui, mais c'est une bonne nouvelle. Il y a une armée de réserve avec des métiers intellectuels notamment, où en fait c'est la course à la précarité, aux tâcherons. On retourne vraiment, et les micro-entrepreneurs et les freelances, c'est tout à fait ça. Mais on a aussi, on le voit, un recrutement en CDI, et c'est purement une question de croissance. Quand vous avez des métiers en pénurie, que vous avez vraiment besoin de gens, bah vous leur donnez tout ce qu'il faut, le CDI, l'argent, la rémunération.
Bon, comme on a un peu mauvais esprit dans cette émission, on reste nous sur les exemples un peu négatifs. J'ai découvert dans votre livre, Mathilde Ramel, une plateforme de bourse à l'emploi pour les startups notamment, qui s'appelle Azerty Jobs, et je suis allé voir ce qui s'y passait, et j'ai trouvé notamment cette annonce d'une petite boîte qui s'appelle Le Ciseau, qui est le leader de la réservation de la coiffure en ligne, et il propose un poste de junior account manager. Et voici ce qu'ils disent notamment. Peu importe tes diplômes et tes expériences passées, tu as envie de rejoindre une start-up et de t'investir dans un projet. Tu es technophile, passionné par l'innovation. Tu es autonome, débrouillard et tu as le sens du service client. Tu aimes travailler avec les gens. Rémunération, indemnité légale de stage, plus ticket resto, plus 50% du pass Navigo. Nicolas Santolaria, finalement, pour embaucher à un moindre coût, le mieux, c'est quand même encore le stagiaire.
Hein. Oui. Et puis, c'est vrai qu'on voit ce phénomène de les gens n'ont plus moins de statut et des titres très, très ronflants. On a vu apparaître notamment tous ces chiefs, etc. Chief Happiness Officer. Tout le monde devient chef, en fait. Mmh. Et il y a de moins en moins d'Indiens pour travailler. Et le stagiaire, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quasiment devenu un métier à plein temps, le fait d'être stagiaire. Certains restent des mois et des mois dans l'entreprise, sans perspective en plus d'intégration au final. Et donc, ça devient carrément un élément structurel du fonctionnement des entreprises. Et à mon sens, c'est totalement abusif. Sachant que ça crée aussi une angoisse chez les salariés, puisqu'ils se rendent compte que le stagiaire va rapidement être plus performant qu'eux. Donc, ils voient quasiment le stagiaire comme une forme de rival. Et oui, on peut se demander si à la limite, il n'y a pas une instrumentalisation du stagiaire par les sphères directoriales pour faire flipper un petit peu les gens qui sont en poste.
Il y a même des stagiaires qui se retrouvent dans la position de devoir faire passer un entretien d'embauche dans votre bande dessinée, Mathilde Ramadier.
Oui, ça, c'est pas de la fiction. Hein. Je l'ai déjà vu. J'ai moi-même été dans des entretiens d'embauche où je voyais que les types en face étaient gênés parce qu'ils savaient pas comment s'y prendre. Ils essayaient de me poser des questions pièges, mais ils y arrivaient pas. Parmi les questions pièges, il y avait des choses complètement absurdes que j'aurais pu mal prendre d'ailleurs. Hein. Par exemple, qu'est-ce que tu serais prête à ne pas faire? Jusqu'où tu peux aller ici, en fait? Quelles tâches peux-tu faire, etc. Et là, pour le coup, ce sont des gens qui sont totalement inexpérimentés, qui sont pas des RH, qui étaient parfois plus jeunes que moi, hein, alors que j'avais 25 ans, et qui, pour les questions de contrat, de salaire, etc., étaient complètement timides, en fait, et n'abordaient pas du tout le sujet.
Moi, ça m'a rappelé un vieux souvenir où j'avais fait une proposition d'émission à la société de production de Thierry Ardisson. On avait été reçu par sa soi-disant directrice des programmes, qui était très intéressée. Puis quand on l'avait rappelé quelques jours plus tard, on nous avait dit « Ah non, mais elle n'est plus là, elle était en stage. » Donc voilà, ça peut arriver aussi, finalement.
Mais elle avait le privilège d'être manager.
Voilà, elle avait dû avoir ce titre-là, Sandrine Foulon.
Oui, alors après, il y a des lois aussi. C'est vrai que ça a un peu changé, quand même, malgré tout, pour les stagiaires. Et il y a des stagiaires qui sont très au fait. Il y a des jeunes qui vous disent, ah, moi, il faut que je dépasse les 41 jours. Parce qu'au bout de 41 jours, vous êtes payé. L'entreprise est obligée de vous payer, de vous donner des tickets resto, de vous donner les avantages de l'entreprise. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai problème avec les stagiaires qui font pas, en fait, un boulot de stage. C'est-à-dire qu'ils sont pas là pour être formés. Ils sont là pour des surcroît d'activité. Tout simplement comme un CDD. Et ça coûte évidemment beaucoup moins cher qu'un CDD puisque c'est un simple stagiaire.
Ce que vous dites, Nicolas Santolaria, c'est que le stagiaire, donc, il peut s'avérer dangereux parce qu'il va prendre une place des fois un petit peu trop importante. En tout cas, c'est quelqu'un qui est motivé puis qui accepte toutes les tâches et qui finit par devenir indispensable. Mais il a cet autre défaut, c'est ce que vous expliquez. Il va finir par dévoiler, malgré lui, au reste du monde, le pot aux roses, à savoir le fait que vous ne glandez rien. Alors ça, c'est un des thèmes qui revient quand même assez souvent dans vos chroniques, c'est-à-dire le fait de ne rien faire, en tout cas de faire en sorte de ne rien faire au bureau sans que ça se voit trop. Ça s'appelle des techniques de SEA, des signes extérieurs d'activité. Alors donnez-nous peut-être quelques conseils en ce 1er mai pour, à partir de demain, continuer à donner l'impression que vous travaillez sans travailler véritablement.
Alors SEA, oui, c'est un acronyme que j'ai forgé, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acronymes en entreprise. Les techniques, c'est assez simple, hein, c'est très basique. Alors par exemple, le mug, j'ai noté que le mug, souvent dans les films américains, c'est associé à des situations de crise, d'urgence, etc. Donc dès qu'on a un mug, on a toujours l'air de gérer une situation assez importante.
Après, il faut l'avoir dans la main
ou sur son bureau, mais en tout cas voilà, on a une sorte de relation comme ça à son mug qui fait que le mug, c'est le café, donc on est obligé d'être en éveil. Voilà, il y a le fait de marcher vite aussi dans les couloirs avec un dossier sous le bras, ça c'est le coup classique. Le fait de laisser un vêtement sur son fauteuil aussi, ce qui permet de partir des fois même quasiment toute la journée dans certaines boîtes. Et c'est vrai que souvent on a l'impression qu'il y a une théâtralité dans l'open space qui est plus importante que le travail lui-même, et le fait d'être un bon acteur là-dedans, d'être très acteur studio dans sa façon d'interpréter le travail plutôt que de le faire, c'est à mon sens tout aussi important que les qualités professionnelles réelles.
Mathilde Ramadier, cela dit, on n'a pas forcément besoin de filouter quand on travaille dans une start-up, parce que les moments de détente, ils sont organisés. Vous évoquiez tout à l'heure la table de ping-pong. La table de ping-pong, ça c'est un des ustensiles, disons, quasi obligés.
Oui, c'est un standard. On est obligé de s'amuser, hein, selon la devise « work hard, play hard ». Donc on travaille dur, mais on s'amuse dur. Il y avait souvent, dans les start-up où j'étais, des moments de loisirs qui étaient obligatoires. Alors, ils n'étaient pas obligatoires sur le papier, mais en fait, il fallait s'inscrire avec notre nom. Donc si on n'y allait pas, on était rapidement repéré et au bout de la troisième fois, on était considéré comme un ermite asocial. Et en l'occurrence, il s'agissait de chasse au trésor dans un marché couvert, de soirées mini-golf dans le noir. Alors toujours, là, la manager qui s'occupait de ça débordait d'imagination pour trouver les activités les plus à la mode de la ville, les plus originales. Et effectivement, il restait, si on acceptait tout, il restait plus beaucoup de temps pour sa vie perso et ses vrais amis, et finalement ce sont les collègues qui deviennent les amis, et la sphère privée devient la sphère professionnelle. Il n'y a plus de limite entre les deux.
Ça, c'est vraiment quelque chose qui est relativement récent, Sandrine Follon. Alors pas, dans toutes les entreprises, bien entendu, mais dans ces jeunes entreprises, dans ces start-up, l'idée que, on est collègues, on est donc amis, et que, les temps personnels et les temps professionnels finissent tellement par se confondre, qu'on fait des activités de loisirs dans le cadre même du lieu de travail.
Je dirais pas que c'est si récent, ça fait bientôt 20 ans qu'on parle de ça. Vous vous souvenez quand il y avait les grands débats sur la nouvelle économie et l'ancienne économie, on avait déjà cette émergence des entreprises où il y avait, on parlait du funky business, où il y avait, c'était pas la table de ping-pong, mais c'était le baby-foot. On avait quand même ce sentiment que, l'entreprise était un cocon, que c'était super, que tout le monde se tutoie, il n'y a pas de management, il n'y a plus de strates hiérarchiques, on peut tous se parler à égalité. En fait, c'est pas du tout récent, ça fait quand même, effectivement, une bonne vingtaine d'années qu'on en parle. Après, il y a eu l'explosion de la bulle Internet, donc on a un peu moins parlé. La vieille économie est revenue un petit peu à la mode, mais aujourd'hui avec toutes les startups, oui, c'est vrai qu'on reparle de ce côté. On est une grande famille, on se tutoie, mais en fait, ça cache une certaine verticalité et des fois même peut-être plus de féodalité comme on parle dans les anciennes entreprises, parce que souvent ce sont des gens qui sont pas formés, donc ils savent pas faire du management, et le management, le véritable management, il s'improvise pas. Et en fait, c'est pas parce que justement on revient dans des logiques très paternalistes. Vous le dites très bien avec le syndrome syndrome de la chouquette. C'est en gros, on est très sympa, je t'amène une chouquette, mais c'est grâce à moi que tu manges. Il faut pas l'oublier.
C'est ça le syndrome de la chouquette, Nicolas Santolaria ?
Oui, c'est une sorte de métaphore de l'entreprise libérée, justement, avec cette idée, en partant finalement de ce qu'on vit souvent à la boulangerie, où quand la boulangère offre une chouquette à un enfant, on se dit, tiens, est-ce que c'est vraiment sympa ? Ou est-ce que c'est pour qu'on revienne dans la boulangerie ? Et donc, l'idée de la chouquette, il y a toujours, très souvent en tout cas, des chouquettes en réunion, et c'est cette idée de manipulation douce, en fait. Voilà, on n'est plus dans la coercition, on est dans un truc sympa, on mange de la pâtisserie ensemble. Mais au final, c'est vrai que la situation reste à peu près la même. Voilà.
Alors, à ce moment de la conversation, vous vous demandez, mais pourquoi Dancing Queen d'ABBA? Eh bien, parce que, en pensant justement à toutes ces façons de motiver les salariés, je sais plus très bien d'ailleurs comment je me suis retrouvé sur ce site, mais c'est un site de team building en musique, et on peut lire ceci. Alors, le team building, c'est la façon de trouver des moyens de motiver les salariés. On mélange tout le monde. Et on peut lire notamment sur la page d'accueil de ce site pour faire des comédies musicales entre collègues. Mamma Mia, Dancing Queen, Gimme Gimme, ces chansons ont toujours fait l'unanimité. Qui n'a pas dansé, chanté ou passé des moments agréables entre amis ou en famille sur ces morceaux? Rien de tel que d'entraîner vos collaborateurs dans un team building musique et danse sur le thème de la comédie musicale d'ABBA. N'attendez plus, lancez-vous dans ce team building musique et créez des souvenirs impérissables avec votre équipe. Le team building, alors là aussi, c'est pas très nouveau, Sandrine Foulon, mais c'est vrai, quand on lit ça, on se dit, mais mon Dieu, pourvu que ça n'arrive jamais chez moi.
Exactement, surtout, enfin, moi, quand j'ai commencé à travailler, on parlait beaucoup du saut à l'élastique, et je me disais, effectivement, pourvu qu'on fasse jamais ça dans mon entreprise. Non, c'est très vieux. Il y a eu la mode du saut à l'élastique, des stages de canoë, kayak, de stages quasi paramilitaires en forêt. Il y a énormément de choses. Il y a des choses avec les chevaux, par exemple. Enfin, on voit arriver très régulièrement des nouvelles modes. Bon, ça sert pas à grand-chose. L'idée, c'est que les entreprises sont complètement perturbées à l'idée de plus savoir comment motiver leurs salariés. Or, en fait, ça peut marcher si votre entreprise marche bien, si tout le reste fonctionne bien, si l'organisation du travail, les conditions de travail fonctionnent bien. Là, vous pouvez trouver ça très amusant d'aller passer un week-end au vert avec vos collègues, pour autant que vous entendiez bien avec eux. Mais quand tout le reste fonctionne pas, ça devient complètement ridicule et ça marche pas, ça peut même être contre-productif.
Vous avez eu des expériences de cet ordre-là, Mathilde Ramadier ?
Eh bien, non, je suis désolée de vous décevoir, mais j'ai souvent refusé. Moi, j'étais un peu l'ermite asocial. Hein. Je refusais souvent ces soirées-là. Alors, dans les startups où j'étais, on ne parlait pas de team building, on parlait de team bonding. Donc, on avait juste changé le nom.
Ça veut dire quoi ?
Bonding, c'est créer des liens. En fait, hein, le terme bonding, on l'utilise surtout pour désigner ce premier moment où un nouveau-né arrive sur sa mère et il faut absolument qu'il y ait quelques secondes de contact peau à peau. Ben voilà, en fait, l'équipe est soudée, elle est là, elle est buildée. Elle est déjà créée. Il faut maintenant serrer les liens et entretenir comme toute relation humaine. Et pour cela, voilà, on vous force à croire que vos collègues sont vos amis, que vous devez tout partager avec eux, vos repas, vos soirées, des week-ends, des fêtes, etc.
Vous connaissiez le team bonding, Nicolas Santolaria ?
Team bonding, pas exactement. Je connais le terme mal bonding, qui est justement cette manière de faire réseau entre hommes dans l'entreprise, en allant boire des bières, en parlant football, etc. Donc finalement, au-delà du discours, d'égalité des sexes, il y a cette façon d'être entre hommes, toujours, qui est assez très présente en entreprise. Donc ça, c'est le mal bonding.
Et il y a une façon d'ailleurs peut-être d'exercer ce mal bonding, même si les filles ne sont pas forcément écartées, mais c'est le baby-foot, je ne sais plus qui en parlait tout à l'heure. Alors, il y a la table de ping-pong dans certaines start-up. Il y a le baby-foot qui peut paraître là aussi comme une espèce d'idéal d'horizontalité. Sauf que ce que vous expliquez aussi dans vos chroniques, Nicolas Santolaria, c'est qu'il y a aussi de la hiérarchie, aussi de la verticalité dans le baby-foot. Alors, il faut nous expliquer pourquoi.
Oui, c'est vrai que j'ai remarqué justement l'apparition de baby-foot en entreprise. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de ce qu'on appelle le reverse mentoring, c'est-à-dire que le fait que les jeunes générations sont plus douées en numérique que les anciennes générations fait que le N plus 1, le hiérarque, n'a plus cette position de mentor. Il est un peu destitué, il n'a plus grand-chose à transmettre. Or, au travers du baby-foot, en fait, il arrive à réinstaurer une position de hiérarchie, puisqu'en général, les générations plus anciennes sont meilleures au baby-foot que les nouvelles générations qui ont plutôt joué aux consoles et aux jeux vidéo. Donc, en fait, en mettant un but avec sa ligne d'avant, comme ça, d'un coup, paf, il réinstaure une forme de hiérarchie, de verticalité, là où elle avait eu tendance à s'effacer d'elle-même.
Tout en tenant un discours sur l'horizontalité, là encore, je vais faire part d'un témoignage personnel. J'ai reçu il y a quelques jours un mail à propos de la soirée de lancement de WeShape Lab, qui se présente comme le premier open lab dédié à l'empowerment des salariés. Déjà, il faut comprendre ce que vous lisez quand vous recevez un tel mail. Je ne sais pas pourquoi il m'était adressé.
À vos
souhaits. Et il était notamment, on voyait notamment dedans une citation d'un intrapreneur qui a dit ceci lors de cette soirée de lancement. Évoluer horizontalement permet d'être libre. Il n'y a pas qu'une seule pyramide, il y en a plusieurs. Et au final, ce qui compte, c'est d'être au centre de l'étoile.
Essayez
alors. Voilà, justement, je comptais sur vous, soit Sandrine Foulon, soit Mathilde Ramadi, pour m'expliquer le contenu de ce mail.
Bon, alors d'abord, on est dans la pleine novlangue. Mm-hmm. On est très inventif pour trouver des mots qui veulent rien dire. L'empowerment, c'est très vieux. L'empowerment, ça date il y a 30, 40 ans, où en fait, on avait supprimé toutes les strates hiérarchiques, les contrôles. Et on disait, en fait, il faut prendre empowerment, vous prenez pouvoir, c'est vous qui êtes maître de votre atelier. Et en fait, on s'est rendu compte, c'est séduisant sur le papier, parce qu'on se dit finalement, vous connaissez bien votre outil de travail, donc c'est à vous de vous améliorer, de faire en sorte que ça marche bien. Sauf que ça peut être très destructeur pour soi, parce que quand vous échouez, c'est votre faute. C'est-à-dire que ça vous revient à vous. Donc en fait, l'empowerment, c'est vraiment une technique justement qui remonte à très longtemps, mais qui a des effets aussi négatifs sur les gens.
Mathilde Ramadier.
Mais cette novlangue, elle est formidable parce qu'elle permet de faire du neuf avec du vieux. Hein. Les startups n'ont rien vraiment inventé. C'est juste qu'avec tous ces termes, ces anglicismes, etc., qui sont très souvent d'ailleurs basés sur la mythologie, parce qu'on parle quand même beaucoup de choses qui n'existent pas dans les startups. Hein. On parle de héros, de licornes, de business angels, de chasseurs de trésors aussi. Moi, j'ai déjà lu des offres d'emploi qui disaient nous ne recrutons pas une personne, mais un chasseur de trésors ou un héros. On part déjà sur une base quand même faite de mensonges.
Il y a une autre formule que vous évoquez, réparateur de bonne humeur. C'est quoi un réparateur de bonne humeur?
En fait, c'était un agent du service client, donc une personne qui a un casque et un micro vissé sur la tête en permanence et qui se fait insulter par des clients mécontents toute la journée et qui est censé les rendre heureux. Voilà ce que c'est. Donc c'est un joli cache-misère en fait. Ça permet de masquer la précarité et de faire croire que c'est cool.
J'ai vu aussi assistant talent recruteur. Ça veut dire stagiaire dans les services RH. Sandrine Follon.
Il y a aussi le chief happiness officer. Oui. Celui-là, il est formidable. C'est le chef du bonheur. Enfin, je sais pas comment on peut traduire ça. Et en fait, voilà, il est censé apporter du bonheur. Or, en fait, on se dit que le bonheur, on est peut-être assez grand pour le trouver tout seul.
Nicolas Santolaria, la novlangue, elle touche pas seulement les qualifications des postes, mais elle touche aussi un certain nombre de pathologies qui sont liées au travail. Alors, tout le monde a entendu parler du burn-out. Le bore-out, c'est peut-être moins sûr. Le brown-out, ça, je suis pas sûr. Et le takotsubo, qu'est-ce que c'est que toutes ces choses?
Alors, effectivement, s'il y a quelque chose que produit l'open space, c'est des pathologies à la chaîne. Et donc, le takotsubo, c'est une forme de crise cardiaque. C'est à peu près tous les symptômes de la crise cardiaque, sauf que c'en est pas une. C'est souvent lié à une émotion forte. Par exemple, ça peut être vécu aussi par les gens dans les catastrophes naturelles. Et le salarié se trouve donc dans l'incapacité de travailler pendant plusieurs mois. Voilà, donc c'est en général lié à une contrariété, par exemple, avec la hiérarchie, un engueulot avec votre chef.
Ou à une mauvaise blague du chef. J'ai sous les yeux, par exemple, le coffret de The Office, qui est la saison, qui est le feuilleton assez génial de la BBC qu'avait fait Ricky Gervais. Et c'est un patron qui aime bien faire des blagues à ses salariés. À un moment donné, c'est au début de la première saison, il fait une blague à la standardiste, je crois, en lui disant, bah voilà, tu es viré. Voilà. Elles font en larmes et puis il lui explique finalement c'était une blague. Ça peut provoquer du takotsubo.
Par exemple, ouais. C'est vrai que cette scène est géniale. Ça peut, c'est caractéristique de ce qui peut provoquer un takotsubo. Après, effectivement, il y a beaucoup l'ennui en entreprise. Vous parliez du burn-out, c'est le fait de ne pas trouver de sens dans son travail au quotidien. Le bore-out, c'est l'ennui. Donc il y a beaucoup aussi cette dimension d'ennui malgré le discours très enchanté qu'on entend. Et à propos de la novlangue, je voulais dire qu'il y a aussi cette dimension d'euphémisation qu'on trouve aujourd'hui en entreprise. Par exemple, j'ai vu une boîte qui elle ne vire plus ses salariés, mais elle les libère. C'est une nouvelle terminologie, en fait. On vous libère. Voilà, c'est quasiment quelque chose de positif de se faire virer, quoi.
Vous avez été souvent libéré, vous, Mathilde Ramadier?
Alors, je n'ai jamais été virée, puisque j'étais toujours en freelance. Donc, en fait, c'était la mission qui s'arrêtait, qui n'était pas renouvelée. Et les fois où j'étais embauchée, je démissionnais. Mais j'ai souvent entendu dire de collègues qui s'étaient fait virer qu'ils étaient partis vers de nouvelles aventures. Ouais, c'est aussi la raison qu'on nous donnait.
Sandrine Foulon, dans le courrier que vous recevez pour votre chronique dans l'émission On n'arrête pas l'écho, est-ce que vous êtes aussi confrontée à des témoignages de salariés qui soit essaient de trouver un boulot et ne savent pas très bien comment s'y prendre justement pour maîtriser ces nouveaux codes, soit confrontés, je sais pas moi, à un problème avec leur hiérarchie, soit alors effectivement au moment d'être remercié, d'aller vers de nouvelles aventures, de savoir quels sont leurs droits, qu'est-ce qui domine finalement dans les questions qu'on vous pose?
Je pense que c'est plus le droit, oui, c'est plus l'aspect juridique. Quand vous êtes licencié, est-ce que vous avez droit à certaines choses? Est-ce que l'employeur a le droit de vous faire partir dans ces conditions-là? Après, ce que vous posiez comme question sur la confrontation avec la novlangue ou avec la hiérarchie, c'est moins le cas.
Parce qu'on pourrait avoir, je sais pas, comme question, on me propose un poste, alors je vais reprendre d'assistant de talent recruteur, mais Sandrine Foulon, expliquez-moi ce que c'est, parce que ça m'intéresse, mais je ne sais pas très bien à quoi ça correspond.
En fait, non, il n'y a pas ce type de question. Après, c'est vrai que on vous demande plus. Aujourd'hui, on fait jouer une clause de mobilité. On me demande d'aller dans tel endroit. Est-ce que j'ai le droit d'accepter ou pas? C'est plus des questions en fait fondamentalement juridiques et de bon sens. Les salariés veulent savoir s'ils peuvent accepter ou refuser d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'ils risquent?
Votre précédent ouvrage, Mathilde Ramadier, donc avant celui, vous n'espériez quand même pas un CDD qui sort le 3 mai, s'appelait « Bienvenue dans le Nouveau Monde, comment j'ai survécu à la coulitude des startups ». Cette coulitude, c'est vraiment, donc on le comprend à travers cette discussion en particulier, quelque chose qui est presque une forme de passage obligatoire. Est-ce qu'il n'y a quand même pas cette coulitude qui existe au moins entre les salariés, c'est-à-dire pas forcément dans les rapports avec la hiérarchie, mais entre les salariés, ou bien est-ce qu'on est dans une forme de compétition qui pourrait être peut-être une compétition un peu sauvage?
Oui, cette coulitude, c'est une culture globale qui déborde même le cadre de l'entreprise. Dans ce livre, j'explique qu'on ne fait pas que travailler start-up, on vit start-up, on drague start-up, on mange start-up, on vit start-up, voilà, dans tous les domaines de la sphère privée. Et effectivement, entre collègues, il y a encore et toujours ce mythe du conquistador, du héros qui doit achever plein de choses. Et j'ai toujours travaillé dans des climats de compétition très féroces qui étaient alimentés par des outils de DRH, donc des vrais logiciels qui calculaient nos performances en temps réel, qui fonctionnaient un peu comme dans des réseaux sociaux sur lesquels on devait liker ou pas les performances de nos collègues. On devait afficher chaque semaine nos OKRs, donc c'est les Objective and Key Results.
Donc c'est beaucoup plus clair comme ça.
Les objectifs clés, voilà, c'est-à-dire quel objectif je me donne pour cette semaine de travail. Et puis notre collègue, qui n'est pas forcément dans le même département que nous, doit approuver ou pas, dire qu'il trouve ça cool ou pas, comme sur Facebook. Donc oui, c'est un climat qui se veut transparent et qui est en fait qui fonctionne avec la loi de la jungle.
Nicolas Santolaria, la loi de la jungle, ça veut dire que c'est Koh-Lanta tous les jours, le bureau.
Oui, c'est vrai que je trouve que Koh-Lanta, c'est une bonne métaphore pour expliquer ce qui se passe en entreprise aujourd'hui, parce que dans Koh-Lanta, il y a toujours une dimension au départ qui est collective, comme un peu le discours des startups, et à la fin, on finit par s'étriper pour quelques grains de riz ou un totem, et c'est un petit peu pareil en entreprise, et c'est vrai qu'il y a cette dimension compétitive qui excède justement la vie de bureau, puisqu'on la retrouve aussi au travers des défis entre entreprise, des défis de marche par exemple, ou au travers aussi de cette espèce d'appétit aujourd'hui pour le jogging, où on va mesurer ses performances en permanence. Donc c'est une culture aussi qui se diffuse dans toute la société, à la fois le management de soi et le calcul de ses performances. Donc on peut se dire que finalement c'est pas si cool que ça, et ça déteint sur notre existence au quotidien.
Avec cette réserve quand même par rapport au parallèle que vous faites avec cette émission d'aventure Koh-Lanta, dont vous dites, Nicolas Santolaria, que c'est pas forcément le meilleur qui gagne à la fin.
Ah oui, mais d'ailleurs, dans Koh-Lanta, c'est toujours comme ça. Celui qui est trop bon, qui a trop de capacité de survie, en général, se fait rapidement éliminer après avoir pêché quelques requins. Parce que
donc, dans le boulot, il faut pas être trop bon non plus, c'est
ça? Bah non, parce qu'en fait, le boulot, c'est aussi une, comment dire, je dirais, une gestion mutualiste des tares de chacun. Donc, il faut pas se montrer trop bon. En général, ça, on peut vite se faire dégager. C'est assez risqué. Il faut savoir se montrer moyen en toutes circonstances pour si on veut durer longtemps.
Qu'est-ce que ça dit Sandrine Foulon, ce que nous décrivent Mathilde Ramadier et Nicolas Santolaria, des rapports collectifs et de la solidarité qui existent, ou qui existent peut-être moins, justement aujourd'hui, dans le cadre du travail?
Oui, c'est un monde affreux. C'est vrai que c'est un mouvement qui est... C'est un mouvement
on aura bien déprimé tout le monde aujourd'hui. Hein, voilà.
Non, mais ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, parce que souvent on nous dit, mais regardez, au 19e siècle, les gens qui travaillaient comme des fous, les enfants, les femmes dans les usines pendant 50, 60 heures, est-ce que c'était mieux? Le problème, c'est qu'il y avait quand même, effectivement, un collectif qui s'organisait. Il y avait des gens, on était contre, on se liguait contre le contremaître ou contre le petit chef. Aujourd'hui, enfin, ce qui se passe depuis quand même énormément de temps, et puis ça a été accentué par des mouvements comme la financiarisation des entreprises et autres, on a des collectifs qui ont complètement éclaté. On met les gens, on les individualise. On les individualise par la rémunération, par les objectifs. On leur dit il faut atteindre tels objectifs. Et en fait, vous êtes concurrents l'un de l'autre. Alors en fait, effectivement, vous n'avez plus intérêt à jouer collectif avec vos collègues, vous avez intérêt à vous démarquer. Et avec des stratégies qui sont effectivement, qui deviennent très compliquées, parce que comme vous dites, faut pas être meilleur, faut faire attention, faut bien calculer, mais ça devient ingérable, c'est terrible. Et puis en fait, effectivement, vu qu'on a quand même des syndicats qui sont largement affaiblis, on n'a plus ces collectifs qui nous protégeaient, en quelque sorte, du monde du travail.
Nicolas Santolaria?
Oui, moi je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'au début du siècle, il y avait ce rapport, on peut dire un peu conflictuel, mais au moins il pouvait être productif et il y avait une forme de dialectique qui aujourd'hui est en train de se dissoudre justement dans cette culture d'entreprise où tout le monde est sympa, on est tous les amis les uns des autres. Et finalement, c'est pour ça qu'il y a autant aussi de pathologies aujourd'hui à mon sens, parce que souvent on se retrouve très seul face à la machine entrepreneuriale et il n'y a plus cette réponse syndicale qui est affaiblie. Et finalement, l'entreprise devient une sorte de blob, de quelque chose de très englobant qui finit par absorber les gens et par leur demander énormément, dans le sens où c'est quasiment leur âme qui doit s'investir aujourd'hui dans le travail.
Vous le disiez au début de l'émission, Mathilde Ramadier, vous travaillez, vous vivez en Allemagne, hein, vous vivez à Berlin. L'Allemagne qui est très souvent présentée comme un modèle, notamment sur le plan social et notamment sur la capacité que peuvent avoir les entreprises à discuter avec les syndicats. En même temps, dans ce qui ressort de vos témoignages, on a l'impression qu'il y a une grande solitude là encore, même si c'est une solitude peut-être choisie, puisque vous avez fait le choix d'être freelance.
Alors,
est-ce que c'est un choix d'ailleurs?
Moi, ça fait maintenant 3 ans que je vis en tant qu'auteur et je suis publiée en France, donc je me déplace énormément en France. Berlin, c'est juste mon lieu de vie, mais je ne travaille plus dans des entreprises allemandes, c'est terminé. Ce que j'y ai vu, en effet, est très loin du modèle allemand qui nous est inventé. Déjà, il y a des contrats de travail qui sont très très précaires. Le fameux mini-job qui existe depuis le gouvernement Schröder en 2003, qui est un contrat de travail plafonné à 450 euros et qui en fait est abusé dans tous les sens, puisque on arrive à contourner le nombre d'heures hebdomadaires. Donc finalement, moi j'ai des amis qui se sont retrouvés avec des mini-jobs à travailler presque à temps plein. Il n'y avait pas de salaire minimum jusqu'en janvier 2015. Donc quand j'ai commencé à travailler dans des startups aussi, on m'a proposé des jobs à temps plein, payés 600 euros et c'était légal. Le chômage partiel ne compte pas dans les chiffres du chômage. Donc quand on nous rabâche que le chômage est très bas en Allemagne, il faudrait se pencher un peu plus sur la réalité des faits. Et il y a énormément de gens pauvres à Berlin, hein, qui vivent avec très peu de moyens. La gentrification avance à toute allure, en partie à cause des startups qui installent leurs bureaux luxueux. Et notamment, il y a le Google Campus qui ouvre ses portes, qui a ouvert ses portes dans le quartier de Kreuzberg, qui était le quartier des artistes et quartier populaire. Donc ça change vraiment le visage de la ville.
Bon, on est quasiment au terme de cette émission. Nicolas Santolaria, je ne sais pas si vous savez à peu près depuis combien de minutes on est en train de discuter, mais imaginons que vous ayez eu une envie pressante dans le cadre de cette discussion qui aurait pu être une réunion professionnelle. Comment est-ce qu'il faut faire? Puisque ça fait partie de vos chroniques, la pause pipi, et les complications que ça peut poser dans un cadre collectif, notamment quand on travaille en open space.
Oui, alors c'est vrai que c'est aussi des... Alors la pause pipi, c'est pas si problématique que ça, c'est plus pour d'autres types de besoins un peu plus conséquents. Et c'est vrai qu'en entreprise, justement, quand on est une sorte d'hologramme, de corps parfait, sans odeur, il y a une forme de débiologisation, la pause, le fait d'aller aux toilettes devient très problématique, voire donc certains changent d'étage, d'autres vont même à l'extérieur. Enfin, il y a toute une gestion des besoins comme ça qui est assez marrante.
Et vous avez cette phrase assez géniale, malgré un discours managérial centré sur le lâcher prise, personne n'ose partir aux toilettes avec sa bande dessinée sous le bras. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Donc je renvoie au syndrome de la chouquette ou la tyrannie sucrée de la vie de bureau. C'est votre ouvrage Nicolas Santolaria aux éditions Anamosa. Vous n'espériez quand même pas un CDD Mathilde Ramadier, une bande dessinée qui sort au Seuil le 3 mai. Et puis Sandrine Foulon, on vous retrouve et dans Alternative économique et dans On n'arrête pas l'écho le samedi matin sur France Inter. Merci à toute l'équipe du Grain, Prune Saez, Fanny Richet, Virginie Leduoux, Antoine Tricot et Antoine Dulster. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Clément Daté. On se retrouve demain à 18h20 pour un nouveau numéro du Grain à Moudre. Tout de suite, enfin dans un instant, ce sera la dispute avec Arnaud Laporte.